podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Merci. On est ravis de vous convier à cette table ronde, comprendre la mesure podcast et bien l'utiliser dans sa stratégie. Alors, je vous propose juste, pour des raisons un petit peu d'organisation de la salle, qu'on prenne vos questions à la fin de cette table ronde. Donc, n'hésitez pas à les garder et à nous les partager à la fin. Donc, je suis Mathilde Jehan, je suis directrice du pôle fréquentation à la CPM, donc l'Alliance des chiffres de la presse et des médias. Et on certifie entre autres les téléchargements de podcasts et on fait des classements tous les mois. Et je suis accompagnée pour cette table ronde de Carla Berton, donc responsable marketing de Louis Média, de Marie-Noëlle Lemoyle, directrice de la stratégie marketing et de l'innovation d'Énergie Globale, et de Timothée Gérardin, responsable de la cellule audio chez Prisma Média. Alors, comment ça va s'organiser ? Donc, c'est une table ronde qu'on a préparée ensemble pour vous proposer vraiment quelque chose à la fois de concret, de voir comment les marques comme Louis Média, comme Énergie, comme Prisma utilisent les chiffres autour des podcasts aujourd'hui pour optimiser, affiner leur stratégie éditoriale, publicitaire. Donc, ils vont vous partager vraiment de vrais cas d'usage autour de leur stratégie. Mais pour démarrer, on s'est dit que ce serait bien de vous partager aussi les fondamentaux. Alors, ça va être assez rapide, hein, c'est 5-10 minutes, un peu plus méthodologique autour de la mesure des podcasts. Alors, déjà, il faut définir, hein, évidemment, ce qu'on mesure. Donc, quand on parle de podcast, quand on parle de la mesure des podcasts, on entend beaucoup de choses. On parle de streaming, on parle de téléchargement, on parle d'écoute, on parle de diffusion, d'audience. Donc, nous, ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est remettre un petit peu les grands basiques, on va dire, de toutes ces définitions. Alors déjà, comme vous le savez, hein, comme vous êtes ici, vous êtes tous et toutes, je pense, des auditeurs et auditrices de podcasts. Il y a plusieurs manières d'écouter un podcast. Donc, soit vous l'écoutez vraiment, vous appuyez sur le play et ça va être une écoute en streaming ou progressive downloading. Donc, au fur et à mesure, le podcast va être téléchargé sur votre plateforme d'écoute. Ou alors, vous pouvez tout à fait demander un téléchargement complet du podcast et l'écouter ensuite, même sans connexion Internet. Donc, tout ça, ces deux modes de consommation, elles sont regroupées aujourd'hui dans l'indicateur qu'on appelle les téléchargements. Donc, quand on parle de téléchargement, c'est ces deux modes d'usage, de consommation du podcast qu'on va prendre en compte. Alors, diffusion, audience aussi, on parle de quoi ? Alors ça, c'est quelques grands principes aussi de base. Donc, nous, du côté de la CPM, ce qu'on fait, c'est de la mesure et de la certification du dénombrement de podcasts, donc d'un nombre vraiment exhaustif de podcasts qui vont être téléchargés. Donc là, on est du côté de la diffusion. C'est une mesure exhaustive, comme je vous l'ai dit, et le périmètre couvert, ça va être l'ensemble des éditeurs qui ont souhaité participer à cette mesure. Alors, quand on parle d'audience, l'audience, on va plus être orienté côté utilisateur. Donc, la plupart du temps, c'est fait à partir de panels représentatifs de la France entière. Et là, on va pouvoir parler d'écoute, parce qu'on saura derrière si la personne a vraiment écouté ou pas le podcast. Donc, nous, on se situe vraiment sur la partie diffusion. Aujourd'hui, sur la partie mesure d'audience d'un podcast, il n'y a pas vraiment de solution, en tout cas, proposée sur le marché pour l'ensemble des éditeurs. Natif et replay. Alors là, on est plutôt dans un environnement autour du Paris Podcast Festival. Donc, c'est vraiment le podcast natif qui est mis en avant. Mais l'audio digital est vaste. Il n'y a pas que le podcast natif, il y a aussi le podcast replay. Donc, nous, dans ce qu'on propose dans les classements ACPM, on propose en fait de certifier, de comptabiliser les téléchargements quel que soit le type de podcast. Donc un podcast natif, ça va être un audio vraiment créé et dédié pour cet usage. Tandis qu'un podcast replay, c'est un contenu qui a été proposé préalablement sous une autre forme, vidéo, radio évidemment, et qui est ensuite proposé en podcast aux auditeurs. Alors, les acteurs dans l'écosystème. Donc là, vous avez une cartographie qu'on voit un petit peu en fond sur l'écosystème, parce que l'écosystème des podcasts est très vaste. Hein, on le voit dans une journée comme aujourd'hui avec le Paris Podcast Festival. Il y a des diffuseurs, il y a des hébergeurs, il y a des éditeurs, il y a des régies, etc. Et pour tout ce qui concerne la mesure et la certification de la diffusion des podcasts, il y a deux acteurs aujourd'hui en France qui sont la CPM et Médiamétrie. Voilà, donc aujourd'hui on représente la CPM. Alors un petit focus sur ce qu'on fait à la certification podcast côté ACPM. Donc nous, l'objectif en fait, c'est que l'ensemble des éditeurs soient mesurés de la même façon et des mesures comparables, normées, fiables. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. On a mis en place cette certification en juin 2020. À la demande vraiment du marché, en fait, hein, tout simplement, qui avait besoin de pouvoir avoir des chiffres certifiés pour mettre en place ce cercle vertueux de confiance avec les agences, avec les annonceurs. Donc, on s'adresse à tout type de podcast. L'indicateur de référence, j'en ai parlé avant, c'est les téléchargements. Donc ça regroupe les deux modes de consommation qu'on a vus au préalable. Et par rapport aux règles, ce qui compte dans une mesure, évidemment, c'est qu'il y ait une méthodologie qui soit partagée, qui soit reconnue. Et c'est ce qu'on veut vraiment mettre en place côté ACPM. Et c'est pour ça qu'on suit une règle internationale de mesure des podcasts, qui est la règle de mise en place par l'IAB. Donc là, bon, c'est un petit peu technique, c'est les règles de l'IAB V2.1, parce que ça dépend des évolutions, on va dire, des normes. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une norme commune, partagée, et qu'elle soit reconnue à l'international. Alors, je vais passer très vite sur ce slide, mais c'est pour vous présenter les normes de l'IAB. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une mesure la plus fiable possible. Et pour cela, il y a plusieurs critères qui sont importants pour, en quelque sorte, nettoyer le trafic de tout ce qui n'est pas du trafic valide. Donc, il faut filtrer les robots, il faut filtrer toutes les IP, enfin tout ce qui peut être atypique dans le trafic. Et il y a aussi la comptabilisation des téléchargements, qui est très important. Comment on va comptabiliser les téléchargements ? Est-ce que j'écoute un épisode le matin, je réécoute le même épisode l'après-midi, est-ce que ça va compter un ou deux téléchargements ? Donc il y a ces normes qui sont très importantes à prendre en compte. C'est pour ça qu'on parle du seuil de duplication des téléchargements à 24 heures. Et je vais vous l'expliquer un petit peu après sur un schéma pour que ce soit plus simple à comprendre. Alors à la CPM, on n'est pas un outil de mesure, hein. On est un outil certificateur. Donc ce qu'on propose vraiment, c'est de mettre en place une norme et de travailler avec les outils de mesure qui sont sur le marché, qu'on labellise, c'est-à-dire qu'ils répondent à des tests techniques, à un cahier des charges précis. Ils doivent nous envoyer l'information d'une certaine façon, ils doivent calculer les indicateurs d'une certaine façon. Et donc tous les acteurs qu'on voit là, donc Acast, Ocha, Saouti, Audiomins, Audion et Energy aussi, c'est vrai, pardon, sont des outils de diffusion qui sont labellisés par la CPM. Et donc, ça veut dire qu'un éditeur qui l'utilise Acast, Audiomins ou Ocha, ou les autres, peut demander à être certifié à la CPM et à avoir un nombre de téléchargements qui soit comparable, même si un autre podcast utilise un autre outil de diffusion. Alors, comment se compte le téléchargement du podcast ? Alors, on va représenter une journée type ou pas. Hein, Ça ressemble pas à une journée. Donc, en fait, on est sur, on va dire, un auditeur qui veut écouter un épisode de podcast. Il le démarre le matin sur son smartphone. Il l'écoute depuis Spotify, par exemple. Et là, ça va nous compter comme un téléchargement. Un peu plus tard dans la journée, il va l'écouter le même épisode. On imagine, hein, c'est voilà, depuis sa voiture, depuis son CarPlay. Bon, il va avoir une autre adresse IP que celle du matin, donc ça va compter un autre épisode, un autre téléchargement, pardon. Et en fin de journée, finalement, il est de nouveau chez lui, il n'a toujours pas fini son épisode, et il va reprendre son écoute du même épisode le soir. Donc il est de nouveau chez lui avec son Wi-Fi domestique. Donc la même IP que celle du matin, le même device que celui du matin, et là, ça ne va pas comptabiliser un nouvel épisode. Voilà. Tout ça pour vous dire en fait que ça répond, le nombre le calcul des téléchargements va répondre vraiment à des normes. Donc là, on voit ce seuil de déduplication à 24 heures est important dans le calcul des téléchargements. Et pour finir, donc le lendemain, il veut réécouter son épisode. Donc 24 heures sont passées. Et là, ça va recomptabiliser un nouveau téléchargement. Bon, souvent, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, les cas d'usage. On ne revient pas sur le même podcast toute la journée comme ça. Mais ça arrive quand même que dans une même journée, avec un même device, on revienne deux fois sur le même podcast. Et dès lors que c'est avec la même adresse IP, là, ça comptabilisera un seul téléchargement. Bon, c'était la partie un petit peu technique. Après, ce sera plus, après, ce sera plus sur la stratégie, tout ça. Voilà, donc pour finir un petit peu par rapport à ce qu'on propose de notre côté, et puis pour qu'on vous compreniez bien l'ensemble en fait, des briques de la mesure, donc tout part évidemment de l'auditeur qui fait une demande de téléchargement d'un podcast. Donc il y a les outils de diffusion qu'on a vus auparavant qui vont enregistrer la demande de l'auditeur. Ils vont nous envoyer à la CPM ces données, donc à la fois... des données très brutes aussi pour que nous, on puisse faire des contrôles sur ce qui a été comptabilisé par l'outil de diffusion. Et ensuite, suite à nos contrôles, tous les mois, on va publier des classements, donc des classements par podcast, par marque et par groupe que vous retrouvez sur notre site, qui sont relayés sur les réseaux sociaux et dont le dernier classement est sorti donc, hier. Donc voilà, donc à peu près en milieu de mois, chaque mois, vous avez le classement du mois précédent, avec l'ensemble des podcasts qui adhèrent à la certification ACPM. Et pour information, donc aujourd'hui, on a plus de 650 podcasts qui sont à la certification. Et dans ces 650 podcasts, il y en a à peu près deux tiers qui sont des podcasts natifs. Alors, quels sont les bénéfices ? Alors, pour le marché, comme je vous l'ai dit, la genèse, la demande vraiment d'une certification vient du marché. Hein. C'est tout l'écosystème du podcast qui a souhaité mettre en place une mesure certifiée comparable entre les acteurs. Donc il y a ce bénéfice vraiment de transparence, etc., mais dont on va parler, je pense, un peu plus avec mes invités juste après. Et juste pour terminer, oui, je vous parlais de 650 podcasts aujourd'hui dans les classements. Et l'audio digital est très diverse. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a aussi, évidemment, dans nos classements ACPM, parce qu'on a à la fois des marques de presse, enfin des marques médias, des radios, des studios de podcast, des pure players, des créateurs de contenu aussi, hein, par exemple, avec un Hugo Décrypte, par exemple, qui est dans le classement ACPM. Donc voilà pour la méthodologie. Donc maintenant, ça va être la partie un peu plus sympa, je pense. Voilà, comme ça, maintenant, voilà, c'est bon, ça, c'est de côté. Si vous avez des questions méthodologiques, n'hésitez pas à nous les poser à la fin ou vous venez nous voir. Enfin, voilà, il y a toute l'équipe qui est là-bas qui sera ravie de vous répondre. Donc, pour démarrer donc, sur cette table ronde, ben, déjà, merci beaucoup d'être présent ici. Et je vais commencer par toi, Marie-Noëlle. On va poser peut-être une question un peu générale, de te présenter Énergie, ce que vous faites sur le format de podcast et comment ça s'intègre dans votre stratégie. Okay.
Bonjour, moi je suis Marie-Noëlle, je suis en charge de la stratégie marketing et de l'innovation chez Énergie Globale, donc qui est la régie publicitaire du groupe Énergie. Sur le podcast, en fait, nous, c'est un format qui vient compléter ce qu'est l'audio digital des radios. Puisque l'audio digital, c'est déjà composé du flux live, c'est-à-dire l'écoute de la radio, mais sur un support digital. Ce sont aussi les radios digitales, qui sont des compositions thématiques. Le podcast replay, alors ça, c'est pas nouveau, puisque ça fait plus de 20 ans que ça existe, et pour nous, ça nous permet de porter une délinéarisation de nos contenus. Chacun, en fait, peut devenir programmateur de sa radio avec ce format. Et les natifs, où là, effectivement, on voit une explosion depuis 3-4 ans. Alors sur les natifs, nous, notre job d'éditeur, mais comme n'importe quelle entreprise, on a à fidéliser et à recruter de nouveaux consommateurs. Et le podcast, c'est, quand on a vu les chiffres ce matin, quand on a un jeune sur deux qui consomme un podcast, quand on a deux tiers des auditeurs en radio qui font écouter des podcasts à leurs enfants, pour nous, c'est un levier pour justement aller chercher, renouveler nos audiences. Alors après, derrière le podcast, on a, nous, deux enjeux. Le premier, ça va être celui du contenu. Quel contenu je vais pouvoir créer, puisque c'est vrai que ces podcasts natifs, ça nous permet de sortir de nos grilles de programme. On a en radio 24 heures qui sont calibrées dans le temps et on ne peut pas en sortir. Et le podcast natif, justement, ça nous permet de créer ces fameux contenus originaux pour nos marques et nos communautés, nos audiences de marques médias. Pour ces contenus, on approche deux façons. La première, c'est en interne. On a du coup une équipe dédiée avec des journalistes. Bon, la partie technique, on l'avait déjà. Où on crée des programmes qui vont être à chaque fois affiliés à nos marques médias. Donc c'est vraiment l'importance d'aller nourrir le lien avec nos communautés. Donc je vais prendre deux exemples. On a Conte-moi l'aventure, qui est notre petit chouchou, qui est un podcast pour enfants. Je vois qu'il y a des gens qui discutent dans la salle. On en a la quatrième saison. On approche les 2 millions de téléchargements. Alors même si les papas peuvent lire les histoires et on les encourage, on l'a rattaché, ce podcast, à Chérie, à la marque Chérie, qui est une marque féminine. Donc on l'a adossé à cette marque-là. Un autre exemple qui est 3615 podcast, que c'est les trucs de jeunes racontés aux vieux et trucs de vieux racontés aux jeunes. Alors pour les boomers qui sont dans la classe, dans la salle, on a un épisode sur la colle Cléopâtre, qui est assez sympa. Ah oui. Ça, on est sur une relation générationnelle, marque nostalgie tout simplement. Et puis on développe aussi des contenus avec des partenariats. On a monté un partenariat avec iHeartMedia, qui est un groupe américain, le plus gros groupe d'audio au monde. Et on a adapté une quinzaine de programmes pour le marché français. Toujours en se disant à quelle marque média je vais le raccrocher. Alors, au début, on s'est dit on va l'adapter, on va le traduire. Un coup d'IA, c'est plié, hop, on met en ligne. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que la façon de s'exprimer, le wording, l'incarnation aussi n'était pas forcément la bonne. Et donc, on a tout retravaillé, tout réadapté pour l'intégrer à notre inventaire. Et on a, par exemple, Stuff You Should Know, qui est un des podcasts les plus téléchargés au monde, qu'on a adapté en tout sur tout. C'est de la culture générale avec énergie. Ou Un Temps Précieux, qui est les tips pour maman avec la marque Chérie. Et puis le deuxième enjeu, une fois qu'on a les contenus, parce que c'est super d'avoir des beaux contenus, mais il faut les rendre accessibles, audibles, on passe sur un enjeu de distribution où là, on travaille sur 3 axes. Le premier, c'est le smartphone, parce que 60% de la consommation audio-digitale, elle est faite par ce device. Donc il faut qu'on ait une expérience utilisateur qui soit vraiment seamless et optimisée. Et c'est pour ça qu'on a revu notre application il y a quelques mois avec un enjeu, je crois que c'était un des sujets ce matin, sur la découvrabilité des contenus. Et ce qui nous encourage, c'est que là, au bout de quelques mois, on voit des temps passés qui sont en augmentation. Parce que le fait de proposer, après Conte-moi l'aventure, un Bonjour London qui s'adresse aux enfants pour apprendre l'anglais, c'est tout naturel. Forcément, on va garder notre consommateur. Le deuxième device, c'est celui des enceintes connectées. On en parlait tout à l'heure. C'est le deuxième device d'écoute de la radio. C'est un des premiers usages, justement, sur les enceintes connectées. Et on a la conviction que la voix est le nouveau clic. Donc en fait, cette commande vocale, le fait d'être accessible aussi à travers ce device-là est important pour aujourd'hui et surtout pour demain. Et puis le troisième, assez naturel pour un groupe radio, c'est la radio. On a la possibilité tous les jours de s'adresser à 10 millions d'auditeurs et donc de faire découvrir aussi les contenus qui sont accessibles en tout cas au sein de leur marque média. Voilà en synthèse.
C'est très complet. Et donc pour toi, Timothée, côté Prisma, donc c'est un groupe média presse à l'origine. Aujourd'hui, vous avez une grosse activité aussi sur l'audio. Donc peut-être présente-nous un petit peu comment ça s'organise au sein du groupe.
Oui, tout à fait. Moi, je m'occupe, donc je m'appelle Timothée Gérardin. Je m'occupe donc d'une petite cellule audio chez Prisma Média. On est 4 personnes qui allons pour les différentes marques édito de Prisma, fabriquer des podcasts et les diffuser. En fait, ça a commencé, cette activité sur l'audio, ça a commencé vers 2018, quand il y a les enceintes connectées qui sont arrivées en France, particulièrement, avec Alexa, Google Home, etc. Et ils nous ont sollicité pour créer des flashs thématiques, le flash écho qui existe encore d'ailleurs, le flash environnement, le flash people, le flash télé avec tes loisirs. Et donc, ça nous a en fait mis dans le bain de la production audio. Et à cette occasion-là, on s'est mis à faire de la production et on s'est aperçu que ça fonctionnait en fait aussi sur les plateformes de podcast. Et on s'est dit, un peu comme tu disais tout à l'heure, qu'on avait sans doute une nouvelle audience à aller chercher, des nouvelles cibles, parfois plus jeunes, qui avaient un autre type de consommation, qui restaient plus longtemps sur les contenus. Et donc, il y avait peut-être quelque chose à créer autour de ça pour nous et que c'était un bon relais aussi de croissance de notre audience. Et donc c'est à cette époque-là qu'on a créé des podcasts comme Mourir moins con, qui est encore régulièrement dans le top aujourd'hui des podcasts, ou alors à l'époque il y avait Les savoirs inutiles de Néon. Et vraiment en fait on repartait soit de concepts éditoriaux print, c'était le cas pour Néon et Les savoirs inutiles, soit on partait d'un concept vidéo avec Mourir moins con, qui était sur le social, et là du coup on le transposait pour s'adapter au format audio. Et voilà, et cette activité ensuite s'est développée petit à petit. Et maintenant, on a plus de 90 podcasts qui ont été créés chez Prisma. Ça représente plus de 6000 épisodes créés depuis le début. Et on fait environ 1,5 million d'écoutes tous les mois. Donc voilà, ça a beaucoup cru. Et aujourd'hui, la stratégie, en fait, elle est double. Nous, en fait, on veut à la fois continuer à émerger sur les plateformes, et c'est comme ça qu'on a grossi initialement, et donc on veut continuer à produire des podcasts super quali pour continuer à être mis en avant et consommer sur les plateformes. Mais en même temps on est assez sûr, et ça a beaucoup évolué récemment là-dessus, notre audience, enfin notre diffusion plutôt, on est assez sûr qu'il y a quelque chose à faire sur les sites, sur le web, pour enrichir l'expérience utilisateur via l'audio. Et ça, c'est un truc qui illustre bien un projet qu'on a en ce moment avec Géo. Donc Géo, on va lancer en fait plusieurs podcasts d'ici la fin de l'année et qui vont accompagner à la fois la nouvelle formule du print et la refonte du site. Et dans le site, on va vraiment intégrer l'audio comme un enrichissement de l'article. Et donc l'idée, c'est que la diffusion web, finalement, c'est une énorme force pour nous par rapport au reste de l'écosystème des podcasts, parce qu'on a des sites très puissants. Et en même temps, l'audio est une grande force pour nos sites, parce que ça crée de la rétention, ça crée une relation avec l'utilisateur et de la fidélisation.
Merci. Alors on a trois profils différents sur cette table ronde, donc c'est ça qui est intéressant. Donc Carla, toi, tu travailles pour Louis Media. Alors, je pense que tout le monde connaît Louis Media dans l'univers des podcasts, mais... Vous, c'est un groupe vraiment créé autour de la création de podcasts.
Donc Louis Media, c'est une marque média qui a deux entités, donc une entité avec des podcasts natifs. On en a à peu près une quinzaine aujourd'hui. On fait à peu près 1 million d'écoutes tous les mois. Dans nos podcasts les plus connus, il y a Émotion qui fait à peu près 400 000 écoutes par mois. Passage, qui est un podcast d'histoire vraie, raconté à deux points de vue, qui fait à peu près 300 000 écoutes par mois. Et on a d'autres podcasts. On en a créé deux assez récemment. Fête des Gosses, qui est un podcast qui s'adresse aux futurs et jeunes parents, et qui est un podcast sur la parentalité décomplexée. Et on a aussi un nouveau podcast qui s'appelle Pépite, qui est un podcast culturel. Et là, on est en train de... Enfin voilà, dès jeudi, on sort un tout nouveau podcast qui s'appelle La maladie d'amour, et qui est un podcast qu'on a coproduit avec un studio de production et qui est tout droit, enfin qui est tiré en fait de la série Irrésistible qui est diffusée sur Disney+. Et c'est des histoires vraies d'amour qui sont analysées par des experts. Donc on a cette activité là et on a une autre activité qui est on est aussi en fait un studio de production de podcasts pour des marques, et on a vraiment une vraie vision globale. On va s'occuper à la fois de concevoir des podcasts, de les produire, de les diffuser, de les monétiser, de les marketer, enfin, c'est très global quoi. Donc on fait ça, et ce qui fait un peu la spécificité de Louis Media, c'est qu'on va vraiment mettre toute la qualité, l'expertise et la puissance de nos podcasts natifs au service des podcasts qu'on fait pour des marques. Et c'est un petit peu notre spécificité. Par exemple, quand on produit un podcast pour une marque, on va lui proposer d'augmenter sa visibilité en lui mettant à disposition, par exemple, des espaces publicitaires sur nos podcasts natifs, sachant qu'on a une cible qui est composée en grande partie de CSP+. On a une cible qui est extrêmement consommatrice de produits culturels. Voilà, quand on a des marques pour qui on fait des podcasts qui ont une cible affinitaire, ça peut être très intéressant de leur mettre à disposition notre audience. Voilà ce que je peux vous dire. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin sur notre audience, tous les ans, on fait une étude un petit peu pour essayer de comprendre leurs besoins, qui ils sont et ce qu'ils attendent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'on avait une cible extrêmement consommatrice de produits culturels. Et c'est ce qui fait notre spécificité avec une cible qui va vraiment souvent au cinéma. Il y en a plus de 50% qui vont au moins une fois par mois. On a à peu près 60% de notre audience qui lisent plus de 10 livres par an. Et on a aussi un tiers de notre audience qui va au musée plus de 5 fois par an. Et donc, c'est ce qui nous définit.
Ouais. C'est vrai. Alors finalement, voilà, c'est trois profils différents. Radio, enfin à l'origine, on va dire, parce que tout ça se mélange maintenant, mais presse et podcast. Et tous les trois, vous avez fait la démarche d'aller vers une certification de vos chiffres et donc de publier vos podcasts au classement ACPM. Alors, juste peut-être pour nous expliquer un petit peu quelles sont les raisons, pourquoi, qui veut commencer.
Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a cette notion de transparence qui est importante vis-à-vis du marché. On fait face avec des agences et des annonceurs où il y a beaucoup d'offres et de solutions de communication. Et à un moment d'arriver avec justement un inventaire qui est certifié, c'est important. Donc derrière, et bien sûr, toutes les notions de confiance. Nous concernant, bon, ça fait une histoire de 10 ans entre le groupe Figaro et la CP, et groupe Figaro, groupe Énergie, et c'est parce que j'ai vu une ancienne collègue du Figaro, c'est pour ça. Groupe Énergie et la CPM, parce qu'il y a 10 ans, on a eu la chance de lancer la certification des radios digitales. On était déjà dans cette démarche-là. Et donc au-delà de cette fidélité et de cette amitié, ce qui est important pour nous, c'était l'exigence de la mesure. Tu as parlé tout à l'heure des normes. Alors oui, c'est assez technique, mais on est vraiment sur du pur téléchargement. Vraiment, tous ces chiffres qui sont affichés sont vraiment là, écoutés par un consommateur. Il y a une paire d'oreilles derrière, il y a de l'attention qui est derrière ces chiffres-là. Et puis, ce qui était important aussi pour nous, c'est que ces chiffres certifiés sont intégrés dans les outils marchés. On a une grande agence qui a lancé il y a quelque temps un outil de media planning qui permet justement de mettre des cases, des podcasts, des inventaires et cocher pour faire des plans médias. On a la même chose côté SSP sur les DSP sur la partie programmatique, où là, les inventaires certifiés ACPM sont identifiables. Le media planner ou le trader peut sélectionner les inventaires qui sont vraiment certifiés. Et donc, ils ont l'assurance d'avoir dans leur plan média des inventaires qui vont être de qualité, qui vont être brand safe, qui vont être certifiés. Donc, c'était pour ça que la démarche était dans ce sens-là.
Effectivement, pour nous, c'est bien sûr ce que disait Marie-Noël sur la partie instance tierce qui va venir certifier, et c'est important pour nous bien sûr, surtout que le marché du podcast est très éclaté avec toutes les plateformes. Il y a plein de lieux différents où est consommé l'audio, et donc avoir une vision unifiée et neutre, c'est nécessaire. Nous aussi, il y a aussi une visée un peu pédagogique pour expliquer aux gens ce qu'est le podcast natif. Parce que c'est vrai qu'entre replay radio, vidéo, les gens, c'est pas forcément très clair dans la tête des gens, et ça suscite beaucoup de questions. Et donc montrer ce qui existe dans un classement certifié en tant que podcast natif, voilà, c'est pour une visée pédagogique et pour défendre ce format en fait auprès du marché, c'est intéressant pour nous. Et il y a aussi un autre aspect qui est pour nous qui sommes en train de développer une audience sur nos propres supports. Parfois, en fait, on se met à faire toute une diffusion, toute une audience spécifique sur un podcast. Mais comme c'est beaucoup chez nous, c'est pas forcément visible sur l'ensemble du marché. Parce qu'il n'y a pas la mise en avant sur telle ou telle plateforme. On a fait le choix d'être plutôt sur nos sites. Et pour ce cas-là, un podcast qui serait passé sous les radars, grâce au classement ACPM, il apparaît en fait vis-à-vis du marché. Et puis après, très concrètement, on sait que le classement est regardé par les annonceurs, et donc c'est un moyen d'avoir des appels entrants, bien sûr.
Je ne vais pas redire, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est évidemment un gage de qualité, de transparence, et Enfin, c'est comme pour certaines entreprises qui vont avoir un label RSE. Enfin, nous, on sait que si on est certifié ACPM, on peut vraiment discuter sérieusement en fait, avec des annonceurs, avec des prospects et voilà, et leur dire bah, voilà, nos podcasts sont vraiment ce nombre d'écoutes. Nous, chez Louis Media, c'est extrêmement intéressant et important. Par exemple, je vous parlais de deux podcasts tout à l'heure, de Pépite et Fête des Gosses. Sur ces deux podcasts, en fait, on a des sponsors qui sont présents sur à peu près 6 mois, 1 an, enfin, qui s'engagent avec nous. Et on leur garantit, en fait, on se met d'accord sur un nombre d'écoutes à délivrer. Et on sait que tous les mois, en fait, ils vont pouvoir aller checker le classement ACPM. Et donc, il y a une relation de confiance et de transparence qui s'établit avec eux.
Et c'est vrai que Louis Media, c'est un des premiers studios à avoir intégré la certification ACPM.
Oui, c'était il y a 4 ans.
Ce qu'on voulait partager avec vous, c'est moi, je trouve que c'est hyper sympa ce que vous avez préparé après, parce qu'ils ont préparé vraiment des cas concrets à vous partager sur l'utilisation des chiffres. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on partage peu entre eux. Entre marques, etc. Donc voilà, c'est vraiment super de le faire pour cette occasion. On va commencer par Prisma. Donc il y a quelques slides à chaque fois pour chacun des acteurs où ils vont nous parler de leur utilisation de les chiffres ACPM ou autres et comment ça vous permet de piloter vos stratégies.
Alors pour ce premier cas, je voulais vous parler de Sexy Veggie, qui est un podcast qu'on a lancé avec Cuisine Actuelle. C'est en fait un rendez-vous hebdo autour des fruits et des légumes. L'idée, c'est chaque mois, on prend un légume et on donne des tips, soit concrètes, de gestes de cuisine à faire, ou alors carrément une recette, ou alors une idée d'autres légumes avec lesquels faire le cuisiner. Donc voilà, c'est une diffusion hebdo. Et ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'il a une diffusion très éclatée. Ça illustre tout à fait ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait vraiment environ un tiers de nos écoutes sur Spotify, parce qu'on a une mise en avant hebdomadaire sur Spotify. On fait un autre tiers de nos écoutes via des articles qui sont écrits par les journalistes autour de ces différentes recettes. Et donc ils partagent le player en tête d'article. Et on a une troisième type de consommation, ça va être sur les fiches recettes de Cuisine Actuelle, donc qui est un site Prisma. Il y a la playlist du podcast matchant le sujet de la recette. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour ces trois types de diffusion, on regarde en fait des indicateurs différents. Finalement sur Spotify, le but c'est de créer des abonnés, de créer une régularité, une habitude. Sur les articles, le but ça va être de générer une écoute et puis derrière de surveiller la rétention. Et enfin, sur la playlist, on regarde surtout quel taux de clic on a en fait sur ce player qui est plutôt en bas de la page pour s'assurer que c'est bien toujours pertinent par rapport au sujet de la recette. Et là en fait le classement ACPM nous permet de rassembler tout ça en fait, nous permet d'avoir une vision unique et de faire en sorte que le podcast comme un tout, il est très puissant, c'est notre numéro 2 maintenant dans nos podcasts, alors qu'en fait c'est pas une puissance via un seul levier mais via plein de leviers différents. Et on n'aurait pas réussi à l'illustrer aussi, de manière aussi éloquente sans le classement. Et l'autre cas, donc c'est tout à fait différent, c'est un podcast qui s'appelle Remu Manage. C'est sur le monde du travail. En fait, le magazine Management qui est chez Prisma, historiquement, pendant le Covid, il avait lancé, donc il y avait un journaliste qui avait lancé un podcast qui s'appelait Journal du télétravail. Donc c'était... on interviewait en fait des acteurs du monde du travail qui parlaient de leur rapport au télétravail, de qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ça évoluait, etc. Et donc on l'a gardé assez longtemps ce podcast, il fonctionnait bien, mais le temps passant, la pertinence du sujet du télétravail commençait un peu à s'estomper. Et donc on a voulu vraiment rebrander ce podcast, le relancer avec une nouvelle personne. Donc on l'a relancé récemment, ça s'appelle Remu Manage, donc, et c'est présenté par Dorit Nahon, qui est une influenceuse sur LinkedIn. Et pour faire ce travail, on s'est pas mal appuyé sur ce qui existait en termes de podcast sur la thématique, en faisant du benchmark. En fait, je n'ai pas parlé justement des choses qu'on faisait avec la CPM, mais le benchmark, c'est aussi une partie importante parce qu'on peut à la fois regarder les scores des podcasts par thématique, selon leur nombre d'épisodes créés aussi. Et donc ça, c'est des données super intéressantes. Et donc, on a pu regarder ça et ça nous a aidé à repositionner le podcast et à voir comment, quelle nouvelle identité on voulait lui donner. Et ensuite, donc ça, c'est en amont. Et puis après, en aval, une fois qu'on a réussi à le relancer, et ben l'idée, c'est qu'il apparaisse à nouveau dans les classements de la CPM. Derrière ça, il y a aussi l'opportunité d'aller avoir des annonceurs qui vont être intéressés. C'est historiquement une thématique qui nous a apporté beaucoup d'annonceurs. Là, j'ai mis des petits exemples, Slack, Dell, Velux, pour les plus récents. Et donc voilà, l'idée, c'est en amont comme en aval, la certification nous aide bien aussi sur la création des podcasts.
Merci beaucoup. Alors ensuite, on va passer au cas de Louis. Média. Tu me dis hein, si je dois passer des slides. Okay. Ouais.
Du coup, pour répondre à la question, quelles sont les datas qui nous intéressent le plus dans le podcast, il y a évidemment les taux de complétion. Donc savoir combien de temps en moyenne sont écoutés nos épisodes. Et évidemment, la durée d'un épisode a de l'importance. C'est vrai que c'est plus engageant d'aller écouter un contenu qui fait plus de 30 minutes, par exemple. Donc nous, on regarde vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier si éditorialement, on a bien travaillé, enfin, si l'épisode a bien fonctionné. On peut aussi voir à quel moment les gens ont décroché, ce qui nous permet aussi de nous remettre en question et de toujours optimiser en fait, la qualité de ce qu'on produit. Donc les taux de complétion, c'est... Je trouve ce qu'il y a de vraiment très important. Et les performances de démarrage. Donc là, c'est une capture d'écran de notre hébergeur. Et en fait, on peut voir après 7 jours, après 30 jours, comment démarrent les épisodes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en étudiant en fait, ces chiffres-là qu'on arrive à un petit peu identifier si la thématique qui est dans le titre est intéressante et plaît au plus grand nombre, voir si la façon de titrer est pertinente. Enfin, il nous est arrivé de faire des tests, de retitrer des épisodes et d'observer parfois que bah, les taux de clics avaient augmenté. Donc c'est super intéressant. Et c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais ça me semble nécessaire de évidemment prendre du temps pour regarder les commentaires qu'on va avoir sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Enfin, sur les autres plateformes, quoi. Et donc, ça, c'est les datas qu'on peut trouver sur les outils qu'on utilise. Et on aimerait bien en avoir plus des datas. Donc, parfois, on essaye d'être un peu inventif. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais chez Louis, on fait vraiment une étude annuelle dans laquelle on va essayer vraiment de déjà savoir qui est notre audience vraiment. Quel âge ont ces personnes, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est comme on l'a fait à peu près à la même période, on arrive à voir aussi l'évolution de ces personnes. Et nous, on utilise ensuite cette matière pour soit produire de nouveaux podcasts pour répondre à leurs besoins, soit optimiser les podcasts déjà existants. Ce qui me fait une très bonne transition avec mon deuxième point. Les focus group, c'est vrai que parfois aussi on a des podcasts qui sont là depuis un moment et on a vraiment évidemment un objectif de fidéliser notre audience mais aussi d'aller recruter une nouvelle audience. Et c'est vrai que parfois de se poser avec des auditeurs de nos programmes pour essayer de comprendre ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, c'est extrêmement intéressant. Et typiquement, nous on a un petit peu revu... on a un peu réfléchi à comment on pouvait optimiser Émotion, qui est notre podcast historique. Et c'est vrai qu'en discutant avec ces personnes, on s'est rendu compte que peut-être on pouvait travailler un petit peu des éléments sur les lancements, sur la durée. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, la nouvelle saison a un petit peu a évolué. Et c'est grâce à l'avis de ces personnes. Voilà. Et après, il y a du malin. Voilà, des petits sondages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vraiment essayer d'engager avec la communauté. Là, très récemment, on a fait voter notre communauté sur la vignette de notre prochain podcast. On mettait à l'honneur Paloma de Drag Race, on avait plusieurs photos et on a demandé à notre audience quelle est la vignette qui vous plaît le plus. Et c'était intéressant aussi de savoir que c'était le close-up, en fait, donc ce genre de choses. Alors, je vous ai déjà parlé de l'optimisation d'un podcast, mais peut-être pour revenir sur Pépite et Fête des Gosses, c'est vrai que c'était cette étude cette étude qu'on fait tous les ans qui nous a vraiment permis de nous rendre compte. Nous, on était persuadés qu'on avait une cible qui était très consommatrice de livres et on avait un podcast qui s'appelait le Book Club. Et en fait, quand on a fait cette étude, on s'est rendu compte que ce n'était pas limité aux livres, que c'était vraiment l'art en général. C'est les fameux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a décidé de revoir un petit peu ce podcast pour recruter de nouveaux auditeurs et targeter plus large et targeter plus de sujets en lien avec les envies de nos auditeurs. Et voilà, et ça a fait naître Pépite. Et commercialement, comment utiliser ces data? En fait, je vous ai déjà dit tout ça tout à l'heure, donc je pense qu'on peut passer.
Alors, on va passer à énergie maintenant.
Moi, je vais prendre une casquette qui est la mienne, hein, énergie globale, donc la régie publicitaire. Donc, encore une fois, nous, notre job, c'est de commercialiser l'audience et l'inventaire radio et audio. La façon dont tu l'utilises, les données, là, je me suis vraiment focussée sur la partie téléchargement. La première, c'est quelque part valider l'évolution du modèle éditorial, puisqu'on a un groupe radio, on a des replays, on a aussi de plus en plus de natifs, et on le voit là, on a à peu près un peu plus de 10% au niveau du groupe qui concerne des téléchargements de natifs. Mais on a une marque comme Chéri où on dépasse les 40%. Donc quelque part, ça nous permet de valider les investissements aussi qui sont faits, parce que tout ça coûte quand même un peu beaucoup d'argent. Donc à un moment de se dire, bah, ok, en fait, j'arrive à transformer mon modèle éditorial. Je valide aussi que les contenus que j'ai proposés plaisent, tout simplement. Et puis ça peut donner aussi envie à d'autres marques médias, dans le groupe en tout cas, de se dire, oui, tiens, ça marche. Je peux aussi développer ces nouveaux formats. Ouais, tu peux. La deuxième façon dont on l'utilise, là on revient vraiment sur cette partie de transparence et de caution quelque part. Il y a un peu plus de 2 ans, face à un marché podcast qui est quand même encore assez éclaté, on avait des annonceurs et des agences qui nous disaient « Ouais, mais en fait, c'est compliqué pour nous quand on veut investir dans le podcast parce que je dois appeler beaucoup de personnes. » Et donc on s'est dit on va fédérer autour de nous, on va agréger des inventaires qualitatifs audio. Donc on retrouve dans ce hub audio premium nos inventaires, donc nos flux live, nos radios digitales, nos podcasts natifs, nos podcasts replay. Et puis on a passé des partenariats où on commercialise les inventaires de Magellan, par exemple une partie de Magellan, une partie d'Audiomins, on a bien sûr iHeartMedia. Et donc le fait d'être certifié à CPM en utilisant les données de téléchargement, on a le tampon en disant voilà, vous avez l'assurance à travers ce hub d'avoir à disposition un inventaire puissant, prendre safe et surtout validé. Et du coup, de cette démarche-là, on a pu aussi travailler la partie contextualisation. Pour nous, en radio, ce n'était pas évident d'avoir du contexte. Prisma a cette chance d'avoir de très belles marques médias contextualisées. On a de la déco, de l'économie, de la mode, de la beauté. En radio, on n'avait pas forcément ça. Et donc, le fait de produire ces contenus thématiques, ça nous a permis de créer des contextes éditoriaux, encore une fois, qu'on peut labelliser avec la CPM sur des volumes. Donc on a par exemple la famille ou bien-être, histoire et fiction, ou l'annonceur qui souhaite s'intégrer à un contexte éditorial. Je passe le coup qu'il est, ce qui est important, mais c'est une alternative aussi à ce sujet-là, nous permet désormais de proposer des contenus thématiques dans lesquels les marques peuvent s'intégrer. Et puis le dernier point, c'est surtout celui, encore une fois, merci, de rassurer aussi les marques, où le fait d'avoir notre inventaire certifié nous permet de lui rassurer aussi sur le fait que son programme, son podcast, on va pouvoir le faire connaître. Là, c'est l'exemple d'Arco Pharma, le pouvoir des plantes, qui est venu nous voir pour créer un podcast, un programme, une saison, sur le pouvoir des plantes, donc chacune des plantes, avec une naturopathe qui racontait tout ça. Et en fait, ce podcast, on a pu le faire connaître au sein de la verticale bien-être. Donc là, l'annonceur, on lui dit, tu as plus de 300 000 téléchargements aussi au sein de cette thématique-là, auprès duquel on va pouvoir promouvoir ton programme. Auprès des radios digitales, encore une fois, thématiques, et bien sûr, au sein de la marque Chéri. Donc ça nous permet, encore une fois, de rassurer, de cautionner, et de valider le fait que son contenu va être visible.
Et pour le flux radio, on parle d'écoute aussi dessus.
Non, c'est promotion. On fait de la promotion du programme.
D'accord.
On n'est pas, on diffuse pas encore les programmes à l'antenne.
Non, mais,
mais on pourrait. Hein.
Non, mais ça bon point. La nuit.
Demain, peut-être. Juste avant de passer aux questions, peut-être un sujet qu'on a un petit peu abordé quand même, mais voilà, il y a des chiffres très bons sur l'audio digital en termes publicitaires, où il y a une croissance importante. Aujourd'hui, voilà, si vous aviez un petit peu votre vision par rapport au marché publicitaire cette année ou à venir, voilà, si vous voulez nous dire quelque chose. Peut-être Marie-Noël, comme tu es. Allez, vas-y.
Bah on est très enthousiaste. Hein. C'est chouette quand même d'être dans un marché qui est porteur avec des croissances à deux chiffres. C'est quand même assez chouette dans les médias. On a côté téléchargement, consommation, on voit une progression des replays à deux chiffres à plus de 17%. Enfin, c'est un format qui existe depuis longtemps, qui continue à croître. Sur les podcasts des radios, enfin les podcasts natifs des radios, on a des progressions de plus de 70% aussi. Donc c'est quand même très chouette. Sur notre média radio, on a aussi maintenant des études qui nous permettent de montrer l'apport en couverture justement de l'audio digital par rapport à la radio. Donc on sait qu'on a plus 4 points de couverture quand on met de l'audio digital en plus de la FM. C'est plus 8 points quand on parle des 15-24, donc ça rassure aussi. Donc c'est un élément important pour les annonceurs. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, on a plus 45% d'annonceurs qui jouent l'audio digital. C'est plus 39% d'investissement publicitaire. On voit aussi une progression des annonceurs qui vont jouer la radio et l'audio. Donc en fait, tous les feux sont au vert sur ce marché. Et tout ça, en fait, c'est très enthousiasmant et on continue à créer et à développer des nouveaux programmes. On a un nouveau podcast qui va s'appeler Gossip Love, qui est les petites histoires de cœur des célébrités. Une nouvelle saison de Feu de camp. On va avoir aussi un épisode dédié à Halloween pour Conte-moi l'aventure. Donc voilà, ça nous permet aussi de continuer à pouvoir investir, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi beaucoup... C'est aussi beaucoup d'argent, donc on a aussi un enjeu financier à équilibrer. On est aussi en discussion avec d'autres acteurs qui vont intégrer le hub dans les prochaines semaines, donc encore une fois pour avoir un inventaire encore plus conséquent. Et puis, dernier point, je pense que c'est celui, mais encore une fois, c'est vraiment ma casquette publicitaire, qui est celui de la mesure de l'efficacité. Un annonceur qui investit dans ce format audio et ce format podcast, est-ce que c'est efficace ? Donc on a, en tout cas chez nous, travaillé des études de retour sur investissement qui montrent que l'audio digital, pour 1 euro investi, ramène 17,1 euros de chiffre d'affaires incrémental. Donc ça, ça valide, ça rassure. On a des solutions de drive-to-web, un annonceur qui communique en audio digital, quel effet, quel impact ça a sur sa consommation de son site. On travaille aussi sur des hauts de funnel, sur la notoriété, la considération. Et l'idée, c'est de continuer à mesurer pour implémenter le benchmark et être toujours en apport de preuve d'efficacité pour accompagner ce marché en plein développement.
Alors, si vous voulez rajouter quelque chose, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste sur le...
Oui, on est super enthousiaste. Déjà parce que même au-delà même du marché pub, où il y a une progression super importante et on le voit, il y a souvent des études qui sortent. C'est comme tu dis, croissance de chiffres, mais aussi sur les usages. On voit que ça continue. Je crois que dans l'étude médiamétrie, on est à 20 millions de Français qui consomment du podcast natif. C'est je crois plus 13% par rapport à l'année précédente. Donc chaque année, il y a une croissance à deux chiffres. Donc, c'est un super marché pour nous. Nous, on croit qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer, pour démocratiser, en fait, ce format. À la fois sur la mode de diffusion, et j'en parlais tout à l'heure, trouver la bonne manière de diffuser qui soit dans les usages et pas seulement applicatifs, quoi, les usages un peu de tous les jours autour de l'audio. Donc on est sûr que ce soit effectivement les enceintes, que ce soit nos applis, les sites web, on est sûr qu'il y a des choses à faire sur l'audio digital qui va plus loin que les pures applis podcast. Donc on croit beaucoup à ça. Et puis ça passe par la diffusion, pardon, mais ça passe aussi par le type de contenu qu'on produit. Nous, chez Prisma, on a notamment Télé Loisirs, enfin, on a beaucoup de marques très grand public, et on essaye aussi de faire ce travail d'aller sur de nouveaux sujets qui ne sont pas forcément traités dans les autres, dans les studios ou chez les autres éditeurs. Donc sur Télé Loisirs, on a un podcast qui s'appelle J'étais aussi et Femmes Actuelles, on a un podcast qui s'appelle Femmes Actuelles, où c'est des femmes inspirantes qui sont interviewées, et c'est souvent aussi des célébrités, donc c'est aussi du potentiel sur nos sites. Donc voilà, y a cette, on essaye de tirer le format vers quelque chose de plus populaire. Et enfin, moi je pense qu'il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, qui est l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va apporter aussi des choses dans la manière de mettre à disposition nos contenus. Nous, qui, chez Prisma, on a moult magazines, moult sites, beaucoup de contenus. Il y aura forcément un moment, un sujet de comment mettre à disposition nos contenus autrement que par l'écrit, autrement que par l'écran. Et ça, on travaille dessus en ce moment. Et on a notamment un projet sur Capital, le fameux Flash Echo. On a un projet de l'augmenter un peu par l'IA, comme ça. Je pense que ça peut jouer un rôle aussi dans l'avenir, ça.
On ne pouvait pas traiter tous les sujets. Mais ouais. Et de ton côté, Carla, donc.
Moi, je suis optimiste aussi parce que il y a une étude qui est sortie récemment, je crois que c'est l'étude Hawk, qui montre qu'en fait, les taux de enfin, dans le podcast, il y a un peu deux façons de faire de la pub. Il y a l'audio ads, donc pub classique qu'on va mettre devant les podcasts, mais il y a aussi le host read, qui est donc une publicité qui est incarnée par une voix. Du podcasteur ou de la podcasteuse qui fait généralement 30 secondes et en fait ces messages là ils ont un super taux de mémorisation et ils ont l'étude prouve qu'en fait la confiance qu'il y a dans ces messages publicitaires est très élevée en fait, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus moi je pense que ça c'est quelque chose d'optimiste, enfin de positif, et je pense aussi qu'il y a un autre volet, on l'a vu, de plus en plus d'acteurs du podcast se regroupent, se serrent les coudes, on a plusieurs structures qui se rassemblent et donc voilà, en fait il y a plus de puissance dans les groupes, hein. Je pense par exemple forcément à Louis Média, mais qu'il y a une prise de participation du groupe CMI, c'est vrai qu'ensemble on est plus fort, ensemble on peut faire connaître les programmes au plus grand nombre et forcément la publicité est plus écoutée et on observe ça chez nous, mais on observe ça partout en fait, que ce soit Paradiso Binge ou Nouvelles Écoutes et Podix, enfin, partout quoi.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes. Donc, s'il y a des questions, on peut en prendre quelques-unes. Ah, il y en a une ? Où ça ? Ah, là-bas.
C'était qui ? Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question pour Corentin, je crois. Vous avez parlé de mise en avant hebdomadaire. Timothée. Je suis désolé. J'ai parlé avec Accord. Vous avez parlé de mise en avant hebdomadaire sur Spotify. Je connais pas le bouton pour activer ce genre de choses, mais ça m'intéresse de savoir où il est.
En fait, c'est la sélection Mon Daily sur Spotify. Ouais. C'est une sélection qui est tous les jours, donc pas hebdomadaire, mais elle change tous les jours. Et donc, nous, on a été sélectionnés le dimanche pour Sexy Veggie. Voilà. Après, sur le retrouver l'endroit où je pense qu'on l'a, c'est dans les sur Spotify, on a mes recos de la semaine, enfin les idées musicales de la semaine, mes titres likés, etc. Et il doit y avoir un endroit où il y a mon daily aussi.
Ok, très clair.
Nous, ça fait bien des écoutes en tout cas. Je sais pas. J'imagine.
Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des podcasts que vous arrêtiez, que vous avez produits, que vous arrêtiez, et si c'était uniquement une question d'auditeurs, du nombre d'auditeurs, ou s'il y avait d'autres critères. Comment ça fonctionnait, en fait, le choix d'arrêter un podcast, si ça arrive ?
Ça dépend, en fait, de l'objectif qu'on s'était donné à la base. Soit c'est un objectif de volume, on se disait là il y a un potentiel pour faire vraiment quelque chose de très intéressant et monétiser plutôt avec les audio ads et donc dans ce cas si ça remplit pas ces indicateurs qu'on s'était donné comme objectif on l'arrête. À l'inverse, si on faisait quelque chose pour l'image et puis qu'on voit qu'on a eu aucun retentissement avec le podcast qu'on a fait, pareil, on se pose des questions quoi. C'est vraiment selon l'objectif en fait.
Bonjour. Comment on fait pour adhérer à cette certification ACPM ?
C'est pour moi. Alors, pour adhérer à la certification, c'est assez simple, il faut souscrire à l'ACPM. Il faut aussi, en prérequis, utiliser un des outils qui est labellisé. Donc, on les a vus là, Acast, Ocha, Acast, Ocha, Audiomins, Audion, Saoti. Et on est en cours de labellisation d'un autre outil. Donc, si vous utilisez un autre outil qui n'est pas dedans, on peut peut-être en parler après, parce qu'il y a des projets en cours. Donc il faut utiliser un de ces outils-là. Après, c'est assez simple une fois que vous utilisez ces outils, parce qu'en fait, ils sont quelque part compatibles avec la certification ACPM. Donc ça a un coût pour la marque de podcast, pour l'éditeur, et ça démarre à 750 euros par an. Après, c'est en fonction du nombre de téléchargements. Donc, c'est jusqu'à 100 000 téléchargements pour le premier palier. Et après, donc, c'est assez simple, parce que nous, on se met en relation avec votre outil qui va nous envoyer l'ensemble des données. Ça va nous permettre de faire des contrôles, de vérifier. Et ensuite, on vous intègre dans les classements de manière mensuelle. Donc, voilà, c'est... Après, si vous voulez, on est à votre disposition. Il y a une partie de l'équipe aussi là-bas. Donc, ils se cachent là-bas. Voilà.
Bonjour, moi j'ai une petite question par rapport à vos objectifs d'écoute. Parce que vous avez quand même, entre vous trois, vous avez des... Puis même, que ce soit Énergie ou Prisma, etc., vous avez des produits qui sont sur des sujets diamétralement parfois opposés. Donc c'est complètement bête comme question, mais comment vous vous basez à la base en sortant le podcast pour vous dire, ben voilà, notre objectif d'écoute, c'est temps. Sachant que ça peut être une niche, j'imagine qu'entre book club et émotion, la cible potentiellement peut être divisée ou multipliée, ou inversement sur le côté les fruits et légumes. Il y a plein de sujets différents. Donc comment vous vous posez, vous établissez ça quand c'est vraiment des nouveaux produits avec des thématiques soit niche, soit très grand public, enfin, et inversement.
Alors, je ne vais pas être la plus légitime pour répondre à la question parce que moi, je suis partie pub. Moi, je vends. Je ne suis pas sûre qu'en fait, on ait un niveau de dire, voilà, il me faut 50, 100 ou 200 000, 300 000 téléchargements. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire le contenu qu'on va proposer va répondre à une audience qui est en face, que l'on connaît. Enfin, nos auditeurs radio, on les connaît. Ça peut paraître peut-être, sur certaines thématiques, des choux et des carottes, mais en fait, ça peut être des thématiques qui vont intéresser nos auditeurs. Et après, c'est assez pragmatique. Et ça marche, ça marche pas.
Je réfléchis pour savoir comment vous répondre correctement, mais y a un vrai travail aussi d'analyse de l'existant. Enfin, on le voit, on regarde vraiment sur les autres podcasts comment ça a évolué. On regarde vraiment l'évolution année par année, mois par mois aussi. On va se rendre compte qu'il y a des mois qui sont plus faibles en termes d'évolution d'écoute. Et ensuite, on va essayer de faire une espèce de ratio pour identifier l'augmentation qu'on veut sur l'année d'après sur un même podcast. Et quand on crée un podcast, bah, c'est en ça aussi qu'en vrai, le classement ACPM, les classements sont pratiques. On peut aussi voir s'il y a des sujets qui sont sur la même thématique, qui sont dans des classements, essayer de voir un petit peu combien d'écoutes ils font par mois. Donc ça peut aussi être une façon de voir les choses. Et je pense qu'il y a aussi une façon... Une autre réflexion qui entre en compte, c'est combien ça va me coûter en fait, de faire tant d'épisodes. Si ça me coûte tant, combien de revenus publicitaires il faut que je rentre. Et s'il faut que je rentre autant de revenus publicitaires, combien il faut que j'investisse en marketing. Et du coup, combien d'écoutes je peux faire.
C'est ça en fait. C'est après la partie monétisation qui peut se faire autant effectivement avec l'audio ads, avec du host trade, mais même d'une marque qu'on va lancer en podcast. Comment après, potentiellement, je peux la déployer avec aussi des marques annonceurs qui vont venir nous voir en disant, bah voilà, je voudrais créer un podcast de marque, je ne sais pas comment faire. Et quelque part, cette production de contenu ad hoc va venir, le financement du coup de ce contenu ad hoc va venir nourrir la marque média dans sa globalité.
Merci. Vous avez parlé de chiffre d'affaires, de data et autres en termes de rentabilité pure, et je pense notamment à Prisma. comment vous faites vos BP? Est-ce que c'est un BP qui est indépendant sur les podcasts ou est-ce que c'est au niveau global et derrière Prisma assume? Et la rentabilité, quand vous faites un BP, elle est sur du court terme, sur du long terme? Enfin, vous estimez la rentabilité d'un podcast sur combien de temps et combien potentiellement on peut gagner sur un podcast? Voilà, c'est tout.
C'est la pire question. Non, en fait, pour répondre à la première question, c'est la cellule audio, un peu comme son nom l'indique, dès le début, elle a été conçue comme c'était à la fois de l'innovation et c'était conçu pour être rentable, autosuffisant, en tout cas, dès le départ. Donc c'est pas du pur investissement et c'est vraiment le CA spécifique podcast nourrit les dépenses qu'on fait. Donc là-dessus, on est assez. Enfin, chez Prisma, de toute façon, c'est très carré là-dessus. Donc voilà. Après, l'autre partie de la question, c'était comment, comment faire des sous avec le podcast. En réalité, ça va quand même assez vite parce que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement construire une audience sur un podcast, c'est super. Et donc ça rejoint un peu la question précédente. Construire une audience sur un podcast, c'est souvent du long terme parce que c'est mobiliser une audience petit à petit par la régularité, etc. Donc c'est pas comme d'autres activités où d'un coup on peut propulser et on connaît les leviers. Donc nous on progresse quand même parce qu'il y a certains leviers qu'on commence à connaître pour mieux se projeter sur ce qu'on peut espérer en termes d'écoute. Donc ça complète un peu sur la réponse précédente. À force, on commence un peu à connaître lesquels leviers apportent quelle quantité d'écoute. Et du coup, on peut y voir assez clair sur les objectifs et pas attendre un an pour arrêter un programme. C'est plutôt une notion de saison en général. Donc sur quelques mois, on arrive à se dire finalement, on s'était donné tel objectif. Là, on n'est pas en train d'y arriver, même sur... l'objectif intermédiaire qu'on s'était donné, donc inutile de pousser plus loin, quoi. Donc on est assez, comme il y a beaucoup de propositions en interne pour faire du podcast, on est assez libre là-dessus et on est clair sur le fait que sur quel objectif on donne pour chaque production et on n'hésite pas effectivement à arrêter pour garder que ce qui a vraiment un sens, quoi. Non, c'est trop. Franchement, c'est délicat. Je ne saurais pas dire. En termes d'audience, c'est mourir moins con. De marge. J'aurais pas le détail du chiffre. En plus, il y a beaucoup de coûts qui sont engagés en interne dans des équipes Prisma par différentes rédactions. Donc, parler de marge est un peu compliqué. Désolé.
Voilà, donc ça touche à sa fin. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est encore un petit peu disponible. En tout cas, on vous remercie. Et merci beaucoup à vous trois. Merci.